Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vous vous êtes préparé à une course, un défi, mais vous ne pouvez pas la faire. Alors, peut être cas maladie, blessure, ou même annulation de votre part, parce que finalement vous ne pouvez pas y aller, ou de l'organisateur. Et dans ce cas-là, vous aimeriez quand même profiter de votre préparation en vous inscrivant à notre course une ou deux semaines plus tard. Mais comment ajuster votre préparation? C'est la question qui m'a été posée, et c'est un cas que j'ai moi-même vécu. Alors, je vais vous donner un petit peu les pistes telles que moi j'envisage les choses, et à la fin, je vous mets en garde sur un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, la grande patate, beaucoup d'énergie, que tout va bien pour vous. Vous écoutez le conseil de Kilomètre 42, vous savez, chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à vous entraîner, vous organiser, oser vous lancer, préparer vos objectifs et être devenir champion, championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, j'ai une question qui, je pense, va rappeler de beaucoup de cas, enfin le cas à beaucoup de personnes. On l'a tous peut-être un petit peu vécu, ou alors ça va nous arriver un jour ou l'autre. Moi, je l'ai vécu sur la préparation de mon premier marathon, et la question m'a été posée par Sonia, qui a un cas dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître, qui me dit « Cela fait 3 mois que je me prépare pour un marathon qui a lieu demain. Malheureusement, je suis malade et j'ai de la fièvre, donc je ne vais pas tenter le diable. Cependant, il y a un marathon qui a lieu dans 2 semaines et je suis tenté de m'y inscrire pour ne pas que ma prépa ne serve à rien. Quels entraînements devrais-je faire pendant les 2 semaines à venir ?» C'est une question, je le répète, qu'on peut tous avoir un jour qui va se poser pour nous. Et donc, je vais vous donner un petit peu les pistes. Mais avant, je voudrais remercier NutriPure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ma forme, dans ce podcast, mais aussi dans ma capacité à publier cet épisode, travailler dessus pour vous amener les informations les plus utiles, précises, en prenant le temps justement d'aller creuser les réponses, parce que justement, leur aide, soutien financier à mon podcast me permet justement de développer le podcast et de le publier régulièrement. NutriPure est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Cariot, quintuple champion du monde de karaté, et leur ADN est de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutiles, et surtout de ne pas faire de fausses promesses avec des pilules magiques. En fait, c'est un complément de fameux triptyque SAM, hein, sommeil, alimentation et mouvement, mais aussi de SAMI, vous savez, le I de ID, pour ce qui se passe dans notre tête, notre cerveau, et y compris le stress. Je dois le dire, hein, moi j'utilise certains compléments NutriPure, je parle souvent du multivitamine, mais je devrais aussi parler par exemple du PureZen sur la gestion du stress, ainsi que les oméga 3 qui viennent compenser par exemple ma consommation de poissons un peu trop faible. Vous bénéficiez désormais de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS, avec un S, mais je vous mets aussi un lien dans la description de l'épisode, comme ça vous avez juste à cliquer dessus, et le code s'applique directement. Et donc maintenant, venons-en à notre problématique du jour, avec cette situation qui est assez commune, où vous préparez une course, une préparation de plusieurs mois, mais dans le dernier jour, dernière semaine, vous ne pouvez pas participer. Alors, il y a différents cas, hein, je l'ai dit, maladie, blessure, annulation qui peut venir de votre part, vous pouvez pas y aller, changement dans le travail, changement d'organisation familiale, un événement imprévu, donc vous pouvez pas y aller, ou alors annulation par l'organisateur, hein. J'ai eu un cas, quelqu'un m'a dit bah, je devais participer à une course bah, qui a été annulée. Et moi j'ai eu ce cas, je vous donne mon cas, par exemple quand j'ai préparé mon marathon de Lyon, qui devait être mon premier marathon, bah, j'ai fait une période site 15 jours, un peu plus de 15 jours avant. Donc, en fait, je pouvais pas courir. Et j'espérais quand même pouvoir faire celui de Clermont, qui était genre 3 semaines après, je crois, il me semble. Je sais plus exactement, c'était à Clermont, on n'a pas vraiment de marathon. Il y en a eu une année ou deux, ils ont fait un marathon. Et ben, il y avait une année, il y avait le marathon de Clermont. Et je m'étais dit, bah tiens, je vais y participer. Et en fait, la question, ça a été de dire, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'en fait, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est est-ce que c'est possible hein, de pouvoir reporter comme ça sur une autre course? Alors, je parle pas de la capacité de vous inscrire, parce que bien sûr, il y a des courses, on peut pas s'inscrire. Mais là, on peut dire, vous pouvez vous inscrire, vous avez le budget pour vous inscrire, il reste des places pour vous inscrire. Est-ce que c'est possible de vous inscrire à cette course-là? Je parle vraiment par rapport à votre santé, par rapport à votre préparation. Alors, on prend le cas à l'envers, prenons par rapport à ce que j'ai dit au départ. L'organisateur annule ou finalement vous ne pouvez pas y aller, ou vous n'avez pas envie d'y aller finalement. J'ai eu ce cas des personnes comme ça qui disent, je le sens pas trop, je vais pas y aller, mais je voudrais reporter sur quelques temps après. Et ben, si vous pouvez continuer à vous entraîner. Normalement, voilà, il n'y a pas de souci pour trouver une autre course. Et finalement, ça ne change pas grand-chose, juste adapter un petit peu la préparation. Donc là, c'est un cas qui est vraiment facile, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas gros souci là-dessus. Maintenant, deuxième cas, vous êtes malade, type rhume, gastro, grippe. Ça vous fait une pause que j'appellerais courte, de quelques jours. Vous pouvez reprendre hein, quelques jours après, mais peut-être vous êtes un petit peu flagada quand même. Hein. On sait que c'est des épisodes. Quand on a de la fièvre, de toute façon, notre corps est plus faible. Quand on a la gastro, on n'est pas bien, on n'a pas d'énergie. Donc, j'ai envie de dire, ça vous met à plat hein, quelques jours. Mais derrière, vous pouvez reprendre assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de gros soucis. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de gros soucis, mais on verra quand même le cas. Ensuite, il y a le cas de la blessure ou grosse maladie. Alors, quand je dis grosse maladie, c'est celle qui vous met vraiment à plat, ou 15 jours après, vous êtes toujours pas bien remis. Blessure, en général, hein, c'est des petites douleurs, des choses comme ça, qui vont durer 15 jours, 3 semaines. Et justement, quand on approche là justement des 15 jours, 3 semaines, c'est là qu'il y a des questions complémentaires, que ça peut être un peu plus compliqué. Car vous avez déjà constaté, après une pause estivale, hivernale, ou après n'importe quelle pause, que la reprise est toujours un petit peu plus compliquée, un petit peu plus difficile. Et en fait, on a souvent ce chiffre qui dit que quand on fait 15 jours de d'arrêt, la reprise après la pause devient plus compliquée. C'est un constat qu'on fait, c'est aussi ce que vous disent les entraîneurs, et en fait qui s'appuie aussi sur des études en fait hein, qui ont été faites, alors qui sont des études même assez anciennes hein, pour certaines, hein, on parle des années 80, 90, après il y a eu quelques études plus récentes, mais par exemple les études de Coyle ou Oumar, s'est attaché en fait à mesurer la VO2 max. Et donc en fait leur constat c'était de y montrer que les adaptations aérobies acquises par l'entraînement comme la VO2 max commencent à diminuer relativement rapidement après l'arrêt de l'activité avec des baisses significatives observées dans les premières semaines. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ben, en fait ils ont mesuré que la VO2 max baissait assez rapidement, hein, en tout cas, dans les 14 premiers jours, puis dans les 3 premières semaines, en fait, globalement. Alors, quand je dis assez rapidement, c'est-à-dire que c'est une perte de 7%. Qu'ensuite, ça se stabilise, hein, et que ça diminue beaucoup moins vite. Par exemple, la perte était que de 16% après 56 jours. Donc, je l'aurais dit, c'est une perte hein, des bénéfices, hein, on perd pas tout, hein, on part pas à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on perd un peu en capacité. Donc je dis hein, 7% dans les 3 premières semaines, et ensuite 16% vous voyez, à 56 jours. Donc finalement, c'est pour ça que vous entendez souvent ce truc-là, que vous dites, oui, mais si tu arrêtes 15 jours, t'as tout perdu. Non, c'est pas vrai, on n'a pas tout perdu. C'est, en fait, on a perdu une partie, une petite partie, et c'est vrai que cette perte, elle est plus rapide au départ. Voilà, elle est plus rapide au départ de la pause, et ensuite ça se stabilise. Alors, on n'a pas de chiffres sur la VMA, hein, parce que c'est plus compliqué, mais on a des chiffres sur la force, et par exemple, ils ont fait des tests chez les cyclistes, qui ont fait des gros entraînements de force pendant 25 semaines, et ben en fait, s'ils s'arrêtent 8 semaines, et ben leur force a bien diminué là aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reprennent en fait des entraînements pour retrouver le niveau de force qu'ils avaient avant la pause. Voilà, hein. Ça veut dire que on retrouve pas instantanément le niveau que l'on avait avant la pause, surtout quand on approche des 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, selon les cas, hein, ce que vous avez, mais non, vous n'avez pas tout perdu. C'est justement pour ça que moi, après ma périocite, eh ben en fait, je n'avais pas pu reprendre la course immédiatement et que je n'avais pas pu faire le marathon de Clermont. En fait, j'étais allé voir Thomas Laure Blanchet, qui est spécialiste, hein, qui est ostéo, qui est kiné, qui était champion du monde de trail. On avait discuté. Au moment où je vais le voir, je dois déjà être à 3 semaines sans courir. Et en fait, les douleurs ont disparu, mais donc je dois reprendre doucement. Et puis son conseil surtout, c'est d'adapter ma foulée, de passer sur une foulée plus naturelle, donc changer de chaussures, avoir une foulée plus naturelle, poursuivre l'adaptation pour éviter de me reblesser. Et donc le conseil, c'était de repartir sur l'alternance course-marche pour reprendre tranquillement et que ce temps de la reprise, et bien finalement, on arrivait justement sur une perte des bénéfices d'entraînement qui devenait un peu plus significative et que finalement, il m'avait dit c'est pas très intéressant, il vaudrait mieux refaire une vraie prépa complète. Ce que j'avais fait, Et ce qui m'a permis d'ailleurs de faire une prépa bien plus intéressante pour le marathon de Paris et qui était 6 mois plus tard. Donc là, on est chacun dans des cas particuliers. C'est pour ça que j'ai voulu citer les différents cas. On sort un peu du cas spécifique de Sonia Pure, mais je voulais aborder ces différents cas. Maintenant qu'on a évalué un peu la possibilité, ben, quel objectif on va poursuivre? Parce que c'est toujours la même question. Hein. Les études que je vous ai citées, elles sont surtout faites sur un optique performance. On n'est pas juste dans le finir. Hein. Si on est juste pour mon objectif est juste de finir, je trouve que ça ne change finalement pas grand-chose. Que vous ayez fait une semaine de pause forcée, que vous ayez été un peu fatigué ou quoi que ce soit, si c'est juste pour finir, ça ne change pas vraiment grand-chose. Voilà, soyons honnêtes. Par contre, si vous avez un temps précis, si vous voulez vraiment faire une performance, c'est là où on retrouve ces questions finalement de perte un petit peu de capacité, de perte de vitesse qu'on peut avoir. Attention aussi, hein, on peut avoir certaines grosses fatigues qui ont un impact sur le cardio, sur l'augmentation de la fréquence cardiaque, sur la fatigue, la récupération, sur le sommeil, donc qui peuvent vraiment être bien fatigantes. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir la stratégie? C'est là en fait où chacun va le sentir différemment. Si la pause de quelques jours n'engendre pas de grosse fatigue, souvent l'objectif peut être identique. Par contre, s'il y a une grosse fatigue, si c'est une blessure aussi par exemple qui entraîne une pause de 3 semaines, c'est clair que on doit peut-être revoir l'objectif à la baisse ou en tout cas prévoir ce que j'appellerais une sorte de plan B en fait, hein. C'est-à-dire de dire est-ce que je peux un peu ralentir ou si je me sens pas très bien, je me dis je pourrais toujours marcher, je pourrais faire un petit peu d'alternance et on se rassure un petit peu sur un point et je vais vous dire que c'est important de se rassurer parce que vous allez voir à la fin pourquoi je vous en parle, c'est de se dire mon objectif est de finir, j'avais peut-être un objectif de temps, peut-être que je pourrais pas tout à fait faire le temps que je veux et puis peut-être que je peux marcher et par exemple je vous rappelle que parce que j'en ai parlé et il y a pas si longtemps que ça j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit c'est peut-être pas très vrai ton truc. Moi, personnellement, j'ai battu mon record sur semi-marathon en marchant à tous les ravitaillements. J'ai eu un autre témoignage de quelqu'un qui m'a dit la même chose dans mes commentaires sur Instagram. J'ai eu d'autres cas. J'avais invité Bruno Obi dans des podcasts. On en avait parlé aussi. Bruno Obi, je vous rappelle qu'il est en équipe de France, qu'il a couru du 24 heures, qu'il a couru des marathons, qu'il a fait tout un tas de distances et qu'il est entraîneur et qui disait que sur marathon, sur semi, parfois, il est bien plus intéressant de marcher sur les ravitaillements parce que on se ravitaille plus facilement. Je vous rappelle aussi que la base, c'est que ça permet de faire baisser un peu la fatigue et la fréquence cardiaque. On repart mieux. Et donc, ça peut être aussi une stratégie de se dire, je peux courir un petit peu moins vite, ou je peux, si je me sens pas très bien, ou si je le sens un peu mieux comme ça, de faire l'alternance course-marche. Et que, en soi, ça va pas venir poser des gros problèmes sur l'objectif que je poursuis, sauf si vous êtes des grands champions et que vous voulez battre des grands records. Ça, c'est un autre cas. Mais vous n'êtes pas beaucoup à être dans ce cadre-là, dans ce podcast-là. Donc, maintenant que ceci est dit, la question 3, c'est comment se préparer. Et on en vient justement à la question spécifique de Sonia. Parce que je vous rappelle que le truc de Sonia, c'est qu'elle a suivi son plan pendant 3 mois et que là, elle se retrouve 2-3 jours avant le marathon. Et fièvre, donc elle peut pas le faire. Et donc dans son plan, il n'y a pas ce cas-là en fait, parce que le plan, c'est quoi? Un plan qui vous amène jusqu'à le jour de la course, et puis ce qui se passe après le plan, c'est du repos. Donc finalement, c'est dire oui, je peux faire une course en 2 semaines. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, je peux le faire? Oui, donc j'ai envie de le faire et tout. Comment je fais pour préparer? Qu'est-ce que je mets là dans les 2 semaines qui me restent? Alors mon conseil, d'abord, ça serait de faire une petite sortie test pour voir comment on se sent. Dans ce cas-là, par exemple, c'est de se dire j'ai eu de la fièvre, j'ai eu de la fatigue, est-ce que je me sens bien en forme? Donc, c'est de reprendre quand on se sent mieux, je fais une petite sortie test, de voir un petit peu. Alors, ça peut être une sortie test, ça peut être 2 sorties test, 2-3 sorties test. Plus la pause a été longue et plus, bien sûr, il faudra faire des sorties test pour bien se sentir. Et puis, une fois qu'on se sent bien, on dit maintenant, je suis prête à reprendre mon entraînement classique. Où est-ce qu'on reprend? Comment on reprend? Eh ben, pour moi, il faut reprendre le plan en partant de la fin. Et oui, en partant de la fin. Car, par exemple, dans son cas, ça serait de dire, je vais refaire les 2 dernières semaines de mon plan d'entraînement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les plans prévoient toujours de nous amener à la meilleure forme possible le jour de la course. Et ça inclut l'entraînement et le repos. Pour une préparation marathon, ce qui est important, c'est d'être en forme le jour J et de ne pas avoir accumulé de fatigue les jours précédents. Et en fait, en général, les deux dernières semaines, ou alors ça va être les 10 derniers jours, sont plus allégés. Et en fait, pour moi, il faut rester dans cette optique. Et reprogrammer depuis la fin permet justement de rester dans cette optique. Le plan de Sonia prévoyait de garder des séances de VMA plus courtes et des sorties longues plus courtes aussi. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire, par exemple, je vous donne un exemple, hein, au lieu d'avoir 10 fois et demi d'accélération, bah on va peut-être faire 5 fois et demi d'accélération, mais en gardant la même intensité. Au lieu d'avoir des sorties longues qui vont faire 3 heures, on va faire une sortie longue qui va faire 1h15, 1h20 ou 1h30. Ça peut être des plans qui vont être comme ça. Parce que ça évite de tomber dans un piège. Et c'est ce qui m'amène au fameux piège. Attention, attention. C'est qu'en fait, on a toujours un doute. Bah oui, parce que j'étais un peu malade, je me suis arrêté, j'ai pas pu faire comme je voulais. Et donc, on a le doute de savoir si on va être prêt. Oui, on voudrait pas perdre la préparation. Et en même temps, on se demande si on est prêt. Et là, en fait, on veut se rassurer. Et quand on veut se rassurer, j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans l'épisode de Samy le lundi, on a tendance à vouloir en faire trop. Et dans le cas de Sonia, dans la discussion qu'on a eue, parce que là c'était il y a quelques jours, donc j'avais répondu avant pour quels sont les éléments le plus rapidement possible, et ben la question qui se posait, c'est de se dire, oui, mais est-ce que je ne dois pas refaire la sortie longue de 30 km qui était la dernière sortie prévue dans mon plan avant cette fameuse phase d'affûtage? Et l'idée, c'est de se rassurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on calcule un petit peu le cas dans ce cadre-là, ça serait de dire bah, à quel moment je place ma sortie de 30 km. Eh ben, on pourrait dire que par exemple, il y a la reprise tranquillement, 2-3 jours, on sent pas bien, un peu de fièvre, maladie, etc. On prend quelques jours pour se remettre bien. Et puis peut-être le mercredi, hop, on reprend l'entraînement. Est-ce qu'on peut placer une sortie de 30 km là? Peut-être pas, hein, on va d'abord se tester, on reprend tranquillement. Après, on se sent bien. À quel moment on va la faire, la sortie de 30 km? Bah, souvent, elle va arriver, bah, par exemple, le week-end avant le marathon. Hein, donc, 7 jours avant le marathon. Donc, elle peut être un peu trop fatigante. C'est-à-dire qu'elle peut être rassurante potentiellement sur le niveau qu'on a, mais elle peut être épuisante par rapport... Quand je dis épuisante, c'est pas qu'elle est épuisante, qu'elle va nous foutre à plat, etc. C'est-à-dire qu'en fait, elle va venir fatiguer un peu trop le corps par rapport au fait que le véritable objectif, c'est de courir le marathon ou n'importe quelle autre course la semaine d'après. Donc, plutôt hein, que faire cette sortie qui peut être contre-productive parce qu'elle va créer de la fatigue, parce que le risque c'est quoi? C'est de dire oui, elle passe bien, donc je suis rassuré, mais dans les jours qui suivent, j'ai mal aux jambes, j'arrive pas trop à courir, je me sens fatigué, je n'en passe pas très bien, et donc c'est d'avoir de la fatigue qui finalement va venir perturber la dernière semaine, et donc le bénéfice qu'on aurait eu à se dire je vais la faire, va venir plutôt perturber la suite et créer de la fatigue. Donc pour moi, vraiment l'intérêt, ça serait de dire vraiment je reprends par rapport à la fin, par rapport à l'objectif, en reprenant les semaines. S'il me reste 3 semaines de prépa, et ben je reprends les 3 dernières semaines de prépa qui étaient prévues. Même s'il y en a une que j'ai déjà faite, ben finalement ça veut dire je refais cette semaine-là. Peut-être qu'il y aura une grosse sortie d'ailleurs, c'est pas impossible. Mais s'il me restait que 15 jours, et ben je fais les 15 derniers jours. Et l'essentiel est fait en fait. Le gros du truc est fait, hein, j'ai envie de dire. S'il y a une pause que de 3-4 jours, de toute façon, le niveau n'est pas perdu, la vitesse n'est pas perdue, ce qu'on a fait en entraînement est acquis, donc on l'a pas perdu, même si on a un peu de fatigue, etc. Quand on a eu un peu de fatigue, le but du jeu, c'est pas de recréer de la fatigue en rajoutant une séance qui va être fatigante, c'est plutôt de gérer l'énergie pour retrouver la bonne forme. Donc une séance allégée, une semaine allégée, elle est même plutôt bénéfique dans tous les cas. Donc voilà pourquoi moi je vois plutôt en partant de la fin comme ça, parce que comme ça on reprend le plan et puis ça nous amène tranquillement sur le jour de la course en ayant bah, finalement refait les stocks d'énergie. Je redonne la logique donc pour répondre à cette question de Sonia, mais plus largement à tous ceux qui se retrouveront un jour dans ce cadre-là. 1. On évalue la possibilité. 2. On évalue l'objectif. Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on le bouge un petit peu? 3. On reprend cool pour se tester, surtout si on a dû faire une pause qui était un petit peu plus longue. Donc dans ce cas-là, on se teste un petit peu et on prend une ou deux séances pour retrouver le niveau. Puis on reprend le plan à partir de la fin. Et puis bien sûr, on n'oublie pas de se dire qu'on en est capable, qu'on a fait une belle préparation et qu'on va en profiter pour devenir champion, championne du monde de notre monde. Voilà, c'est fini pour cette question. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions sur Instagram, par exemple, @BertrandSoulier. Alors, c'est une question, en général, je réponds d'abord par message privé hein, pour que vous ayez une réponse plus rapide. Et puis ensuite, je creuse un petit peu et je fais une réponse sur le podcast. Parce que là, dans ce cadre-là de Sonia, le temps que je réponds dans le podcast, eh ben, la course serait faite. Voilà, je pense que, ou alors c'est ce week-end, donc je réponds d'abord avant, on en discute. Et puis moi, ça me donne des idées, ça permet d'enrichir le podcast. Donc j'aime bien justement répondre à vos questions parce que ça vous donne des cas pratiques, ça me donne des cas pratiques aussi sur lesquels réfléchir, ça nous permet d'avancer et puis bah ça fait une sorte de boîte à outils dans laquelle vous pouvez piocher le jour où vous retrouvez dans cette problématique-là, de venir piocher les questions en vous disant « Ah bah oui, tiens, Bertrand, il en a un jour parlé là-dedans, tiens, hop, qu'est-ce que je peux faire ?» Et vous pouvez retrouver les épisodes. Pour ça, n'hésitez pas à les rechercher dans les archives du podcast. D'ailleurs, je le dis, hein, je suis en train de préparer un petit truc sur les archives pour que vous puissiez aller voir encore un peu mieux les archives. Je crois que c'est la question 76e question, quelque chose comme ça, à laquelle je réponds. Donc, autant dire que ça fait quand même un bon volume de questions-réponses. Et donc, qu'il y a sûrement les cas dans lesquels vous vous trouvez. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très très bon week-end aussi, si vous écoutez cet épisode le week-end. N'hésitez pas à me poser vos questions, je le répète, à mettre une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify aussi, vous pouvez réagir à chaque épisode. Et on se retrouve bien sûr le lundi pour l'épisode Samy, le mercredi pour l'épisode plutôt Inspiration. J'ai des super épisodes qui arrivent avec de nombreux invités. Et ben, la question la semaine prochaine, n'hésitez pas à la poser. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une nouvelle fois. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao mes champions et mes champions.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.